Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler.
Ah, c'est pas faux.
Non ! Non !
Mon pinès, oui !
Pas ça ! Non !
Dites mon nom.
Non ! Non !
Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
Merci, 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 merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip, bip.
Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux œuvres diffusées sur le petit écran et sur les plateformes de streaming. Dans les épisodes précédents, on décortiquait The Mandalorian, la série phare de Disney+. Aujourd'hui, retour dans les années 90 avec une série qui a marqué un véritable tournant dans l'histoire des sitcoms. Pour cette collection numéro 2, on va s'intéresser à la série Seinfeld et on y consacrera pas moins de 4 épisodes. À mes côtés, pour passer cette série sur le grill, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane.
Salut Clémence.
Et Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Clémence.
Alors, Seinfeld, c'est quoi? Les connaisseurs de la série vous le diront, c'est une série sur rien, a show about nothing. On va très largement y revenir. Seinfeld, donc, c'est une sitcom américaine créée par Jerry Seinfeld et Larry David, diffusée sur NBC à partir de 1989. Jerry Seinfeld, comédien de stand-up new-yorkais, y joue son propre rôle, mettant en scène son quotidien et celui de ses amis, Hélène, George et Kramer. NBC diffuse les 180 épisodes répartis sur 9 saisons de juillet 89 à mai 98. En France, la série reste d'abord confidentielle, avec une diffusion sur la chaîne du câble Canal Jimmy à partir de 93, puis Canal+ reprend le flambeau et popularise la série auprès d'un public plus large à partir de 97. Meilleure sitcom de tous les temps, d'après le magazine Vanity Fair, classée parmi les meilleures émissions de télévision de tous les temps, dans de grosses publications comme Entertainment Weekly, Rolling Stone ou TV Guide, Seinfeld a fini par devenir un véritable phénomène. C'est aussi la sitcom la plus lucrative de la télévision américaine, avec plus de 3 milliards de dollars de revenus générés depuis la fin de sa diffusion en 98. Côté spectateur, elle décroche la troisième plus grande audience pour un épisode final avec 76,3 millions de téléspectateurs. Mais alors, comment expliquer ce succès incroyable de ce show About Nothing, à propos de rien? C'est justement ce que nous allons voir dans ce premier épisode. Et pour entrer dans le vif du sujet, on va commencer par le commencement avec le générique. Cette musique qui fleure bon les années 90. Alors c'est le moment où je me tourne vers mes experts, hein, Stéphane, Rafik. Ce générique, le passage incontournable pour chaque série, celui-ci, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que ça vous évoque?
Bah, c'est un peu ringard, hein, faut être honnête. C'est-à-dire, surtout quand on l'écoute aujourd'hui en 2021. Par contre, c'est très pavlovien. C'est-à-dire pour moi, en tout cas, personnellement. C'est-à-dire à chaque fois que j'entends ça, et là c'était la même chose, je me dis, ah, je vais me marrer. Pendant 20 minutes. Donc sur ce point-là, en fait, c'est quelque chose qui reste en tête. Et mine de rien, c'est le principal, je pense, en fait, pour un générique de série télé. Aussi, je l'écouterai pas à part, on va dire. Hein. Mais l'autre point qui est très intéressant, c'est que dans Seinfeld, c'est pas un générique classique. Et là, je parle pas en termes musicaux, mais vraiment en termes de ce qu'on voit à l'écran, puisque Seinfeld, c'est un stand-up comédien. On va beaucoup en parler hein, au cours des émissions. Et du coup, en fait, il fait un show de stand-up. Et ça, c'était un truc qu'on n'avait pas vu, en fait, à l'époque, à la télé américaine. Ou alors très, très peu, si c'est le cas. Et en fait, il fait sa routine. Il fait ses gags, en fait, à chaque fois sur scène. Et ces gags-là ont un rapport avec le contenu de l'épisode. Du coup, en fait, il y a une mise en place qui t'explique quelle va être la thématique de l'épisode. Et c'est hyper bien vu. C'est même, je trouve, la partie la moins drôle en vrai, parce qu'elle est plus informative que vraiment drôle à proprement parler. Quoi.
C'est ça, les épisodes commencent avec ce court générique, puis Jerry Seinfeld qui apparaît sur scène dans un club. Et le thème du sketch est... donc celui de l'épisode qui suit, et la suite de l'épisode nous révèle en général comment l'idée du sketch est venue à Jerry.
Ah, c'est ça, exactement.
Et en fait, cette musique n'est pas sur les tout premiers épisodes, elle apparaît sur le quatrième. C'est une musique de Jonathan Wolf qui est basiquement composée d'une ligne de basse avec du beatbox par-dessus et puis de vagues trompettes au synthé pour la fin. Mais sa caractéristique, c'est qu'elle est très très peu utilisée. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est assez exceptionnel. Hein, mais sur la série, on a vraiment quelques secondes puisqu'elle sert essentiellement d'interlude musical. Lorsqu'on passe d'une scène à l'autre, de la même façon qu'en fait on a la petite cymbale en stand-up qui est parfois utilisée pour soutenir un gag ou pour passer d'un gag à l'autre. En fait, elle a cette fonction là donc elle est très très évocatrice des clubs new-yorkais, et donc c'est aussi pour ça qu'elle pose immédiatement l'ambiance. Mais comme le dit Stéphane, elle est devenue tellement pavlovien par le succès démentiel de Seinfeld qu'elle est régulièrement utilisée aujourd'hui comme un appel du pied. En fait, je me souviens dans le film Scott Pilgrim versus The World par exemple, où on a juste un zoom sur une maison avec cette musique là et ça suffisait à créer le gag. Ça, ce qui prouve aussi à quel point Seinfeld est rentré dans le zeitgeist culturel anglo-saxon d'une façon absolument délirante, quoi.
Et le générique lui-même est détourné au sein de certains épisodes. Par exemple, dans un épisode qui se déroule en Inde, le thème est joué sur un sitar.
Sur le sitar, ouais.
Ça s'adapte en fonction du contexte.
Et en version suspense dans le tout dernier épisode, puisqu'il c'est un procès, on en parlera. Et c'est vrai qu'il le joue de manière beaucoup plus diffuse, comme si c'était vraiment une musique de suspense à la Bernard Herrmann. Voilà, ce qui est toujours un peu rigolo parce que ça reste le thème de Seinfeld, quoi.
Et oui, et ce dernier épisode, on en parlera en détail dans le quatrième épisode de cette collection Wheel of Series. Alors, on a dit que donc Seinfeld, c'est un succès phénoménal. Il a fallu quand même quelques années hein, pour que la série atteigne vraiment son niveau de croisière, son rythme de croisière. Comment est-ce qu'une série qui ne parle de rien, a show about nothing, ça peut cartonner à ce point?
Bah, en fait, à la base, il faut revenir sur la genèse hein, du projet. Seinfeld, c'était un comédien un stand-up comédien qui passait souvent à la télé, qui avait des excellents retours. C'est-à-dire, il passait Johnny Carson dans le Tonight Show, ce genre de show. Et à chaque fois, en fait, il avait, c'était déjà entre guillemets une petite légende en fait dans le milieu, quoi. Et il était représenté par son agent, qui est un agent en fait de beaucoup de comiques américains, qui est aussi une légende d'une certaine manière, qui s'appelle George Shapiro, et qui chaque année, en fait, envoyait, sans même que Seinfeld le sache, en fait, un mémo aux chaînes de télé en disant il faut faire une série sur Jerry Seinfeld, il faut faire une série sur Jerry Seinfeld. Regardez, il vient de cartonner dans le Tonight Show, etc., etc. Un jour, ça prend. Dans les années, à la fin des années 80, 88. Et il rencontre Seinfeld, c'est-à-dire les gens d'NBC rencontrent Seinfeld et lui demandent qu'est-ce que vous voudriez faire. Et là, en fait, Seinfeld se retrouve dans la réunion et fait, mais j'ai pas d'idée, je sais pas. Et il va chercher un acolyte.
Il leur dit, lorsqu'il lui demande qu'est-ce que vous voulez, il dit, ce que je voulais, c'était une réunion comme celle que vous venez de me proposer, parce que pour moi, c'est la consécration d'un comédien. Voilà. Non, au-delà de ça, j'ai aucune idée.
Voilà, c'est ça. Et en fait, en gros, il est quand même allé chercher Larry David, qui est pour le coup, lui aussi a été un stand-up comédien, plutôt dans les années 70, qui est passé à l'écriture, qui a notamment passé au Saturday Night Live, même si ça s'est pas très bien passé, on en parlera plus tard. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais dans l'esprit de Seinfeld, Larry David, c'était quelqu'un qui était capable de poser les routines pour lesquelles ils sont connus dans la stand-up, en fait, sur le papier et en tirer quelque chose de narratif. Donc lui, il était émerveillé par cette capacité qu'il considère ne pas avoir hein, et qui va d'ailleurs, au fur et à mesure, on en parlera plus tard, mais essayer de développer pour lui-même hein, quand ils feront la série. Et ensemble, en fait, ils se sont mis à parler, ils se sont mis à discuter entre eux, et ils se sont rendus compte que il fallait parler de ça. C'est-à-dire que quand ils se mettent à discuter, je sais pas, du goût de tel parfum de glace, de n'importe quoi, en fait, du coréen du coin, du petit coréen du coin, du magasin qui tient la supérette, ce genre de choses. En fait, il faut parler de ça, et ça sera ça le show. Sauf que en premier lieu, ils ont pensé ça non pas comme une sitcom, non pas comme une série télé, mais vraiment comme un épisode spécial, qui je crois, si je dis pas de bêtises, corrige-moi Rafik, ça
s'appelle The Seinfeld Chronicles.
Non, avant c'était Stand Up.
Oui, pardon, ouais. Le premier titre c'était Stand Up.
Stand Up, et c'était
un... Et ça se voulait filmer à une seule caméra.
Voilà, et c'était un filler. C'est-à-dire, c'est un mockumentaire. C'est-à-dire un filler, en fait, si tu veux, qui devait remplacer ce qu'on appelle un filler, c'est un épisode de remplacement, qui devait remplacer Saturday Night Live pour une soirée. Et ils ont écrit un script comme ça, qui suivait Seinfeld pendant entre ses routines, en fait. Et en gros, ça a tellement plu à NBC qu'ils ont dit non, il faut en faire une série, quoi. Et ils sont partis donc sur The Seinfeld Chronicles.
En fait, George Shapiro, que Stéphane a cité, qui est effectivement très important, parce que c'est basiquement c'est lui qui a vu le potentiel de Seinfeld. Seinfeld était très satisfait de ça. Quoi. Il avait toujours rêvé de devenir un stand-up comédien. Il était stand-up comédien. En 81, donc quand il est apparu chez Johnny Carson, il a reçu le OK sign, qui est pour un comédien l'absolu. C'est-à-dire quand Johnny Carson prend ses doigts et fait un geste de OK, genre au sens de bravo, quoi, ça voulait dire tout pour un, c'est mieux qu'un Oscar, quoi. Donc pour lui il était presque arrivé au top, et donc Shapiro a vraiment poussé pour que cette série existe. Et Shapiro, il travaille beaucoup avec Rob Reiner, ils ont la société Castle Rock Entertainment, et donc c'est toute cette culture d'un certain humour juif, souvent new-yorkais, dont sont sortis les Andy Griffiths, évidemment Rob Reiner lui-même.
Rob Reiner, le réalisateur de Quand Harry rencontre Sally.
Et réalisateur aussi d'un mockumentaire,
voilà.
Qui est Spinal Tap.
Voilà.
Donc on est dans cette culture là. Donc effectivement, Larry David, qui était passé par le Saturday Night Live comme l'a dit Stéphane, mais où il a fait un seul sketch en fait. Hein,
il a fait une moitié de saison, pardon.
C'est ça, il a fait une moitié de saison et puis un seul sketch a été diffusé, voilà. Et il a fini par claquer sa démission.
Et en faire un épisode plus tard. Non, on y reviendra. Et donc oui, ils avaient envisagé effectivement cette espèce de faux making of sur comment un comédien crée sa routine, en fait. Le club auquel ils bossaient tous les deux à l'époque s'appelait le Catch a Rising Star. Et donc ils se retrouvaient souvent en face dans les diners ou dans les épiceries. Et c'est effectivement dans une épicerie, ils étaient en train de faire des blagues sur des bonbons.
C'était des bonbons.
Voilà, que Larry David lui a dit, c'est de ça dont ça devrait parler. Et l'autre, de quoi, des bonbons? Non, des conneries qu'on est en train de dire à propos des bonbons. On devrait faire un choix à partir de ça. Donc ça a été proposé donc à NBC. Et les deux exécutifs qui ont été en gros dépêchés pour travailler ce truc, c'est Warren Littlefield et Eric Ludwin. En fait, ils vont se retrouver malgré eux dans la série Seinfeld lui-même, et c'est assez pratique parce que on est en train de parler de comment cette série s'est créée. C'est tout simple, il suffit de regarder la quatrième saison, puisque tout l'arc narratif de la quatrième saison, c'est comment Seinfeld est approché par la télévision pour faire une série. Et donc, ils ont remis toutes les anecdotes qu'ils ont traversées dans ces épisodes-là. Brandon Tartikoff, qui à l'époque était celui qui chapeautait toute la production chez NBC, lui avait quelques réserves sur ce qui était proposé, parce qu'il pensait que ça serait trop new-yorkais et trop juif, justement. Ce qui d'ailleurs a été le cas du premier épisode qui a été diffusé à un public test, et le mot trop juif est revenu, en fait. Et c'est Rick Ludwin, qui est pas juif d'ailleurs, pour le coup, n'était pas du tout d'accord avec ça. Il disait non, mais juste on s'en fout, c'est super drôle, et il voulait développer le truc, mais le reste de la chaîne ne voyait pas le potentiel au-delà d'un public très très ciblé et très 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 urbain, quoi, comme si en fait ils avaient fait un show que pour des gens qui leur ressemblent. Et Eric Ludwin, c'est vraiment celui qui était convaincu qu'il y avait un public au-delà, et il a mis vraiment ses billes sur la table, parce que il avait un budget pour l'année, pour ses propres productions, et il a décidé de carrément annuler un show qu'il avait de prévu, un spécial Bob Hope, pour se servir de cet argent pour financer les quatre premiers épisodes qui allaient servir au fond à lancer le projet.
Effectivement, et les quatre premiers épisodes prennent contre finalement les premiers pronostics. Et du coup, la série est renouvelée. Alors, il y a un super documentaire qui s'appelle « Comment tout a commencé », qui explique justement la jeunesse de la série. Documentaire que vous pouvez trouver sur YouTube en 6 parties.
Il est sur le DVD à la base, en fait. Petit aparté, excuse-moi. Quand Seinfeld est devenu vraiment un carton, en fait, d'un seul coup, c'est parmi les premiers DVD qui se sont vendus en fait en saison complète. Et à l'époque, c'était encore nouveau. Et d'un seul coup, ils ont mis énormément d'extras parce que c'était encore une fois un tel phénomène qu'il fallait vraiment tout expliquer, tout documenter, quoi.
C'est ça. Et donc dans ce documentaire, Larry David explique que quand il apprend que il re-signe pour 4 épisodes, en fait, il est catastrophé parce que c'est. Mais j'ai pleuré. I got tears in my eyes parce que il me dit on a déjà galéré pour faire ce tout premier épisode. Comment on va en sortir 4? Et alors, quand la série est renouvelée à nouveau pour une deuxième saison, c'est encore pire. Il est au fond du trou. On dirait que, à chaque fois, c'est...
C'est le moteur, en fait, de Larry David. C'est-à-dire que c'est un grand angoissé. C'est quelqu'un qui fonctionne. Enfin, la plupart de ce qui se passe dans, par exemple, alors il faut expliquer ça, c'est-à-dire qu'il y a Jerry Seinfeld donc qui joue son propre rôle, et il y a son acolyte qui est son meilleur ami depuis toujours, qui est George Costanza, qui est interprété par Jason Alexander. Jason Alexander n'avait même pas conscience au début que en fait il interprétait Larry David.
Et ça, il incarne Larry David,
voilà. Et en fait, il en était même à des stades où il lisait certains sketchs, en fait, pas le pilote, mais par exemple un épisode.
C'était The Phone Message, le message téléphonique.
Voilà, et il disait, incompréhensible, pas drôle, ça peut arriver à personne, c'est jamais arrivé. Et en fait, t'as Larry David qui fait, mais ça m'est arrivé à moi, qu'est-ce que tu racontes?
Et j'ai réagi comme ça.
Parce que, effectivement, c'est un épisode assez absurde au départ, dans lequel le personnage de George Costanza a laissé un sale message à une nana croyant quelque chose, et en gros, il l'insulte sur sa messagerie, et il s'aperçoit que c'était pas du tout le cas, elle a pas du tout fait ça, et en fait, il est paniqué, et il cherche carrément à la cambrioler pour aller récupérer la cassette du message qu'il a laissé avant qu'elle ne puisse l'écouter, ce qui est totalement délirant. J'ai plus son nom, Jason Alexander, c'est un comédien de méthode, en fait, donc il a vraiment besoin de sentir son personnage du théâtre, quoi. Et donc il comprenait pas la motivation, puisque il disait aucun être humain ne ferait ça. Et l'autre lui fait, mais bien sûr, moi je l'ai fait.
Il s'est rendu compte, c'est en fait je vais interpréter Larry David. Jusque là il le joue un peu comme Woody Allen, mais en gros, enfin comme un névrosé, on va dire classique.
Et névrosé new-yorkais, voilà, effectivement, c'est ça. À la Allen.
Exactement. Et en fait, voilà, c'est de ça l'angoisse. Alors, après, il faut préciser un truc avec Seinfeld Chronicles. D'abord, il y a eu un pilote qui a été, je crois, diffusé, si je dis pas de bêtises, mais qui a été refait. Parce que Julia Louis-Dreyfus, qui est aussi une personne, enfin le troisième personne du casting, on va dire, avec Constanza et plus tard Kramer, en gros, Michael Richards n'était pas dans la série. Et en fait, il y avait un personnage féminin qui était une serveuse et qui finalement, ça a été complètement revu et repensé pour...
C'était une de leurs amies, ouais.
Voilà. Ouais. Ça a été revu et repensé pour intégrer, j'ai presque envie de dire, un vrai personnage féminin, parce que là, c'était vraiment une excuse pour avoir quelqu'un qui les sert au milieu de, au milieu de la situation.
Au départ, les personnages féminins n'auraient été que le cast de comment dire, toute la file de petites amies que Jerry et George ont à travers la série. Et là, pour le coup, c'est NBC qui a vraiment insisté pour avoir un personnage féminin central et qui va prendre une importance considérable, surtout, je pense, du fait de l'apport de Julia Louis-Dreyfus au personnage.
Alors justement, le cast principal, on y reviendra vraiment très en détail dans l'épisode 2, mais on va quand même faire un point pour les personnes qui n'ont jamais regardé la série. Donc on a évidemment Jerry Seinfeld qui est au centre, qui est le personnage principal. Mais à ses côtés, il y a donc Julia Louis-Dreyfus qui joue Hélène Bénès, son ancienne petite amie. Jason Alexander, on l'a dit, qui incarne George Costanza, l'ami d'enfance de Seinfeld. Et puis Michael Richards qui joue Cosmo Kramer, le voisin de palier assez loufoque. Et qu'on retrouve également tout au long des épisodes.
Et qui était le vrai voisin de Larry David.
Et qui l'a aussi.
Qui existe vraiment, qui s'appelle vraiment Kramer en plus.
C'est ça, qui est inspiré d'un vrai personnage.
Mais en fait, ils avaient changé le nom. Ils l'avaient appelé Kessler parce que, Larry David se doutait que si Kramer, le vrai Kramer, apprenait qu'il avait utilisé son nom sur la série, ils allaient au devant de gros problèmes et qu'il essaierait d'en faire du business. ce qui a été le cas, puisqu'en fait NBC et Jerry Seinfeld trouvaient que Kramer était plus drôle comme nom que Kessler, et Kessler sonnait, encore une fois, ça sonnait trop juif aux yeux de certains chez NBC, donc ils ont gardé Kramer. Et bien sûr, le vrai Kramer a appelé NBC, leur a fait comprendre qu'il avait des droits sur son nom, mais c'est pas la seule chose, le seul délire qu'il leur a fait. On y reviendra
ouais, dans le prochain épisode en détail. En 2013, la Writers Guild of America a établi un classement des séries les mieux écrites de tous les temps et a classé Seinfeld au deuxième rang, juste après Les Sopranos. À la base, quand même, il faut le rappeler, hein, Larry David et Jerry Seinfeld n'avaient jamais écrit de scénario. Et il l'explique très bien toujours dans ce documentaire.
Ouais, c'est pas quelque chose, ils avaient pas de structure, et d'ailleurs ils ont toute une équipe, hein. Après, quand ça s'est développé, il y a eu beaucoup de scénaristes qui sont arrivés pour, je pense, structurer en fait les idées qu'ils pouvaient avoir, hein. Je pense notamment à Larry Charles, en fait, qui est assez connu maintenant dans le milieu pour ça, parce qu'il a travaillé sur beaucoup d'autres comédies, c'est notamment le réalisateur de Borat, du premier Borat, et en fait voilà, c'était des gens qui avaient besoin de structure, mais en même temps, et d'ailleurs Larry David lui-même va s'enlever de ces structures-là, il va faire une série plus tard sur lui-même qui s'appelle Curb Your Enthusiasm, dans laquelle en fait finalement il a un gros pitch et il se base en fait sur un suivi de séquences. Et c'était sa méthode sur Seinfeld aussi. Sauf que là, il se l'est autorisé, on va dire, sur Curb, bien plus tard. Mais on leur a expliqué, non, Network TV, tu peux pas faire ça, en fait. C'est-à-dire, faut recontextualiser un petit peu l'époque. Hein. C'est-à-dire que en 89, il y a 5 chaînes de télé vraiment, en fait, qui sont capables de faire ce genre de contenu. Hein. Donc, arriver à faire financer Seinfeld, encore une fois, une émission à partir qui ne parle de rien. C'était une gageure, en fait. Et en gros, c'était d'autant plus une gageure que voilà, on a parlé de d'un personnage extrêmement névrosé qui est Larry David, qui en fait a claqué la porte je sais pas combien de fois, qui a des demandes absolument délirantes, en fait, parce que dès qu'on lui dit il faut faire ça, il fait non, c'est ma manière de faire, etc., etc. Donc en fait c'est quelqu'un qui a une espèce de psychorigidité qui s'applique d'abord à lui-même. Et le bon complément, c'était justement Seinfeld qui venait le voir et qui lui disait oui, on va t'inquiète pas, t'as raison. Et en fait, d'un seul coup, il le ramenait à la raison, on va dire.
Mais ils avaient une excellente dynamique tous les deux. Ils s'enfermaient régulièrement dans leur bureau. Il était absolument interdit d'y rentrer. Le truc, c'est que la psychorigidité de Larry David, elle joue en faveur justement de cette écriture, parce qu'il ne laisse absolument rien passer. Il se lève le matin et la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est que c'est une catastrophe ce qu'ils ont fait la veille, parce qu'il y a une virgule qui a été mal placée. En plus, bon, le process veut que il fasse une lecture avec tous les comédiens en place, que du coup tout ce qui va se passer dans cette lecture va leur souligner en fait tous les défauts du script. Ils vont repartir s'enfermer, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de fois où ils sont sortis très très tard de l'immeuble, et les comédiens reconnaissent que lorsqu'ils arrivaient au tournage, enfin, c'est sûr, c'était impeccable. Je sais plus quelle formule, je crois que Jason Alexander disait en prenant une formule footballistique, ils nous mettent la balle à 10 mètres du but, et nous, notre boulot, c'est de finir ces 10 mètres, en fait, quoi. Par contre, il fallait effectivement respecter le texte une fois qu'il était là. Mais tout est vraiment concentré sur l'écriture et sur les comédiens. C'est-à-dire que c'est aussi le tempo spécifique de chacun des comédiens qui va leur permettre de refaire les blagues. C'est des stand-up comédiens, donc tout est basé sur la rythmique aussi, sur le peps du truc. Donc Larry David, il était connu pour régulièrement leur refaire c'est Bryan Cranston, je crois, qui disait non, recule de 3 secondes, avance d'une seconde, voilà, là tu le bouges plus, etc. Enfin, c'est comme un musicien.
Ce qui est marrant, parce qu'en fait Larry David et Jerry Seinfeld sont des acteurs très mauvais. C'est-à-dire qu'il faut le préciser, ça aussi, c'était un des problèmes en fait sur Seinfeld, c'est que Seinfeld, Jerry Seinfeld avait un gros souci déjà à la base. Le truc qui lui faisait peur à lui, pour le coup, c'était d'être l'acteur principal, et c'était aussi un des trucs que NBC s'est demandé, parce que 10 ans auparavant, Seinfeld a eu une très mauvaise expérience dans un autre sitcom qui s'appelait Benson,
ouais.
Où il est effectivement très mauvais, faut le dire quoi. Vous pouvez regarder sur YouTube, il y a des extraits.
Et où il jouait un wannabe comédien.
Voilà, c'est ça. Et plus ou moins son rôle, mais plus naïf que, ouais. Que voilà, qu'il ne l'est vraiment.
Mais sur des textes qu'il écrivait pas.
Voilà. Mmh. Et du coup, c'était pas ses textes. Et donc là, c'est effectivement la plus-value de Seinfeld, c'est aussi ses textes, c'est aussi ses gags, etc., etc. Et c'était un des problèmes en fait que NBC a soulevé à un moment donné en disant mais en fait si Seinfeld n'est pas bon, il faut vraiment qu'on l'entoure d'un cast de qualité quoi, ce qu'ils ont fini par faire. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport à l'écriture du coup, c'est que ça a l'air de rien en fait, l'écriture de Seinfeld, c'est-à-dire qu'effectivement c'est hyper précis, hyper millimétré, mais ça a l'air de rien parce que les pitchs finalement sont
stupides.
Ouais, puis commun, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc, mais commun, mais complètement nouveau à la télé. C'est-à-dire que, par exemple...
Justement, je voulais qu'on revienne là-dessus, sur qu'est-ce qui fait que Seinfeld, c'est une sitcom qui est différente de tout ce qu'on a connu jusque-là.
Bah, par exemple, moi, il y a un épisode que j'aime beaucoup, c'est l'épisode du restaurant chinois, où, en fait, tu comprends, et tu le sais pas forcément, tu le sais quand tu l'as vu, mais tu le sais pas forcément quand tu le lances, que, en fait, ça va se passer que dans le restaurant chinois. Et tout le gag, c'est l'attente de se faire placer en fait, c'est-à-dire si on va leur donner une table ou pas. Et en gros, ils sont quatre.
Ils font la queue. Ouais.
Ils sont trois, pardon. Ouais. Et il y a un vague enjeu en fait de est-ce que ils vont arriver à voir le film de 22h ou pas.
Parce qu'ils veulent aller dîner au resto chinois avant d'aller au cinéma pour voir un film nul.
Ce qui est quand même le truc de la soirée classique de n'importe qui en fait, je veux dire dans l'absolu quoi. Et en gros, eux, ils en font un sketch de 20 minutes. Enfin, pas un sketch, mais un épisode entier de 20 minutes. Et du coup, tu t'en rends compte au fur et à mesure, putain, mais en fait, c'est un huis clos, ils vont rester là-dedans, et le maître d'hôtel les oublie. Et en fait, ça devient une espèce de truc où, dans cette mécanique peut arriver à tout le monde, qui est généralement un moment un peu chiant, quoi, c'est-à-dire on est là en train d'attendre, putain, qu'est-ce qu'ils foutent, j'ai faim. Bah là, en fait, ils en tirent toute une vraie routine absolument incroyable où ils relancent le truc. Et ça, c'est par exemple, c'est un type de sketch qu'ils vont finir par faire assez régulièrement plus tard dans la série. Ils sont coincés dans un parking, ils cherchent leur voiture. Donc c'est 20 minutes, tu vois, comme ça, où ils tournent en rond et il se passe plein de trucs, quoi. Je sais ce qu'il y avait d'autre, je sais
plus. Il y a le métro aussi, où ils prennent chaque ligne de métro différente, ouais. Ils sont bloqués à différentes stations. Donc oui, effectivement, des épisodes où il se passe rien. Pourquoi ça a marché? Bah, au départ, c'est la dynamique même de regarder la télévision qui est en jeu. On regarde la télé, pourquoi? Est-ce qu'on vraiment on la regarde pour regarder des histoires ou est-ce qu'on la regarde pour regarder des gens? En fait.
C'est exactement ce qui est dit dans l'épisode de la saison 4, le pitch, quand ils vont pitcher leur série et Costanza explique c'est une série about nothing, mais pourquoi est-ce que les gens la regarderaient, demandent les gens de chez NBC, parce que c'est à la télé.
Et à ce à quoi le président d'NBC dit pas encore. Ça c'était la punchline. Comment s'appelle le comédien qui le joue d'ailleurs?
Bob Balaban, je crois que c'est ça.
Le pire c'est qu'il a vraiment la voix et le regard du vrai président de exécutif pardon de NBC.
Mais c'est vrai que le truc c'est que
l'épisode sur le restaurant chinois, il faut quand même préciser que bon, il a été tourné, c'est la deuxième saison, mais NBC ne voulait pas le diffuser justement à cause de ça, parce qu'il y avait zéro développement. Ils se disaient c'est pas possible, les gens ils vont claquer la porte, ils vont changer de chaîne quoi. Et
parce donc que à l'époque il y avait des structures dans les scénars de sitcom, c'est-à-dire qu'ils en font un gag, excuse-moi Rafik, ils en font un gag en fait, si tu veux, dans le pitch, quand d'un seul coup ils se rendent compte que c'est trop léger. Donc ils imaginent une histoire où en fait on pourrait raconter l'histoire d'un mec qui se fait écraser par sa bagnole et comme en fait il se retrouve en procès, en fait l'issue du verdict en fait c'est tu deviens mon maître d'hôtel. Et donc c'est un truc complètement absurde, mais c'est une idée que tu pourrais trouver dans n'importe quel sitcom des années 70-80, et les gens sont morts de rire en fait quand on leur pitch cette idée-là. Et c'est exactement ce que Seinfeld et Larry David voulaient éviter. Et c'est ce qui fait la différence en fait, finalement, c'est ce qui fait leur différence, c'est que malgré l'écriture, l'écriture a l'air de rien, mais elle est hyper précise, précisément parce qu'en fait le pitch est d'une banalité à la base qui s'avère être drôle quand tu vois l'épisode. Si on te dit on va regarder un épisode, c'est drôle, sur un mec qui attend dans le restaurant chinois, il va faire pouf, j'ai pas envie de regarder ça. Et c'était ça, je pense, la vraie distinction à mon sens.
Oui, bien sûr, et c'est donc l'opportunité pour le public de se de public citadin en l'occurrence, de se voir lui-même, de se voir reflété dans une version sensiblement améliorée. Alors je dis pas améliorée au plan moral, mais améliorée parce que ça reste des comédiens et ils ont des punchlines et quand ils s'envoient des vannes, elles sont beaucoup plus drôles que celles qu'on a dans la vraie vie. Et donc c'est ça qui a vraiment séduit le public et qui était évidemment un public citadin. Ce qui est marrant, c'est que dans les premiers retours Nielsen, la chaîne considérait que la série marchait pas, hein, sur ses premières saisons, parce qu'elle plaisait essentiellement aux young adults, et t'as envie de rigoler aujourd'hui, alors que c'est un des publics après lequel tout le monde court, mais dans les années 90, c'était pas considéré comme un public apparemment aussi intéressant que ça.
Et après, il faut préciser, voilà, c'est que, comme on l'a dit, vite fait, la série Seinfeld, en fait, c'est vraiment commencé à devenir un phénomène à partir de la 4e, 5e saison, où même on peut arguer que c'est quasiment la 5e saison, c'est là où il y a quasiment les épisodes les plus classiques, quoi, mmh. Enfin, vraiment les trucs très drôles. Moi, je sais que le premier épisode qui m'a vraiment accroché, c'est un épisode qui s'appelle The Contest, où en gros...
C'est un classique maintenant.
Voilà. Qui raconte comment les quatre personnages en fait font un pari sur celui qui arrêtera de enfin qui durera le plus longtemps sans se faire plaisir, enfin sans se masturber, quoi. Et par exemple, un des gars qui me fait mais vraiment et qui m'écroule, et surtout la première fois j'en pouvais plus, j'ai dû arrêter l'épisode, c'est quand les mecs disent si on va tenir, et littéralement la scène d'après t'as Kramer qui rentre et qui pose son billet parce qu'il a dans l'intervalle, dans l'ellipse, en fait il y est allé, quoi. Et en fait du coup c'est hilarant parce que tu t'attends à ce que ça soit lui et ça marche, en fait, voilà. Donc et puis c'est un sujet, quoi, enfin c'est un sujet, tu le traites pas à la télévision américaine, quoi.
Cet épisode a stupéfait toute la profession, en fait, déjà parce qu'ils abordaient un sujet qui est évidemment, la télévision de l'époque ne l'abordait même pas sur des dramatiques. Alors sur un sitcom, qui est quand même le genre familial par excellence, il faut préciser quand même, et c'est important, qu'à aucun moment il y a un mot déplacé. C'est-à-dire qu'ils font tout l'épisode sans jamais citer la chose dont il est question. Donc un gamin qui regarde l'épisode ne comprendra absolument rien à ce qui se passe. Mais il faut aussi rappeler que dans ce groupe il y a une femme. Que déjà on parle pas de la masturbation masculine, mais alors la masturbation féminine, t'y penses même pas.
Tabou,
quand même. Tabou absolu. Et tout ça est passé comme une lettre à la poste, justement parce que l'écriture elle est totalement délirante. Ça commence en gros l'épisode parce que George Constanza dit qu'il s'est fait choper par sa mère. Et donc, comment ça s'est chopé? Et là, il fait, par ses regards et ses allusions, là, ils comprennent qu'il s'est fait choper dans cette position-là, quoi. Et que donc, du coup, il faut, il en a marre, il arrête et que il se met Jerry lui dit qu'il tiendra pas dans deux jours, et là ils ont effectivement le pari est lancé,
ils font pari d'abstinence, et en fait évidemment ils tiennent pas, quoi. c'est un épisode classique, mais il y a plein de trucs. Tu parlais de la façon d'arriver à contourner justement les problématiques de la télé américaine. Il y a un épisode aussi sur l'homosexualité qui est aussi un sujet dans les sitcoms qui n'était pas forcément traité, ou en tout cas qui devait être traité de manière extrêmement positive. Et le problème, c'est que comme c'est des personnages extrêmement exécrables, les personnages de Seinfeld, en fait, tu rigoles parce qu'il y a des rires enregistrés. Et donc, en fait, tu comprends qu'il y a un sarcasme, si tu veux, qui est là. En fait, ils sont homophobes. Et du coup, en fait, c'était un problème pour NBC qui leur disait, mais on peut pas, en fait. Parce que, je sais plus si on l'a dit, mais le motto principal de Seinfeld, c'est et notamment de Larry David, c'était
no hugging, no learning.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire pas de câlin, comme dans toutes les sitcoms.
Et on apprend rien.
Voilà, et on apprend rien, et pas de leçon de morale. Donc du coup, quand tu dois tenir cette ligne-là, bah forcément, si tes personnages, si tu crées des situations comiques avec des personnages qui sont bêtement homophobes et que en fait tu leur donnes pas une leçon de morale à la fin, se retrouve à un moment donné une problématique sur le network américain où les mecs se disent mais en fait vous pouvez pas traiter ce sujet-là et ne pas leur taper sur les doigts.
En fait, ouais, c'est pas tellement qu'ils sont homophobes que qu'hypocrites. Voilà, parce que l'épisode en question, Hélène fait une blague au restaurant en les faisant passer tous les deux pour des homos, parce qu'elle sait que les nanas qui sont à côté les écoutent, en fait, et donc ils jouent plus ou moins le jeu. Sauf qu'il s'avère, et ça ils le savent pas, que une des deux nanas qui était présente est censée interviewer Jerry durant l'après-midi. Voilà. Donc quand elle découvre que c'est ce gars qui vient de lui être présenté comme homo, bah du coup toute l'interview commence à tourner autour de sa vie romantique et sexuelle, et c'est là où Jerry comprend qu'ils se sont fait piéger, quoi,
et qu'il y croit vraiment,
voilà, et donc ils se défendent d'être homo avec la fameuse réplique qui va devenir très célèbre, Not that there is anything wrong with that. Donc non, bien sûr que je sais pas, au moins, non, mais même si c'est aucun, il y a aucun problème avec ça. Et donc cette réplique, not that there is anything wrong with that, elle va être répétée 50 fois dans l'épisode parce que tu t'aperçois qu'en fait ils font comme si tout allait bien, tout. On est des gens tolérants et on accepte ça, mais éviter de...
Et ça a été rajouté, ça, à cause des problèmes, justement, d'un des deux exécutifs d'NBC qui disait, mais vous pouvez pas, il faut que vous trouviez une... En fait, ils voulaient annuler l'épisode, littéralement, parce que, à cause de ce truc-là. Et c'est la phrase, en fait, qui a été... Je crois, en fait, ils ont trouvé cette phrase parce que c'est Larry Charles, en fait, qui l'a dit à un moment donné, comme ça, d'une manière complètement... dans le contexte, en fait, ils se sont dit, bon, mais il n'y a rien de mal avec ça. Et les mecs se sont dit, ça y est, on va utiliser cette phrase. Et à chaque fois que les mecs, ça s'avère être plus...
Disent un truc limite, en
voilà,
fait.
Voilà, c'est ça, et ils utilisent cette phrase. Ouais. Et du coup, ça devient un gag supplémentaire, en fait, qui contourne la censure originale, en fait, d'NBC, quoi.
Et souligne l'hypocrisie des personnages.
À plus forte raison. Voilà. Donc, il y a vraiment, en fait, ce travail en permanence, en fait, de briser, entre guillemets, les tabous de la télé américaine de cette époque-là. Tout en restant finalement, et c'est aussi le motto de Jerry Seinfeld à la base, très clean, très propre, parce que Jerry Seinfeld c'est un stand-up comédien, la stand-up comédie c'est basé sur beaucoup de fuck, de gros mots, de trucs comme ça, etc., etc. Et pour lui en fait c'est la facilité. Il veut vraiment en fait, il a toujours voulu sortir de ce cadre-là tant il faisait ses routines, et il s'y tient ça fonctionne extrêmement bien en fait dans Seinfeld, quoi, dans le cadre d'un sitcom, quoi.
Alors des tabous qu'on brise, une écriture très fine, hein, on l'a dit, et des personnages finalement, des personnages très très communs et quotidiens, et qui font que le public s'identifie. Ça fait partie des raisons du succès de la série. Il y a encore beaucoup à dire, hein, sur le sujet évidemment, et c'est tant mieux puisqu'il nous reste non pas un, non pas deux, mais bien trois épisodes pour creuser tout ce qu'on n'a pas abordé aujourd'hui. Alors les garçons, la prochaine fois de quoi on parle, hein?
Ça serait bien de revenir sur le casting, en fait. C'est-à-dire que, en gros, je pense que ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles tu disais que c'est des personnages populaires et dans lesquels les gens se retrouvent, c'est parce qu'ils sont extrêmement bien interprétés aussi, en plus d'être extrêmement bien écrits. Et mine de rien, c'est un casting Jason Alexander, Julia Louis-Dreyfus et Michael Richards, en fait, qui apportent énormément à Seinfeld. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on se concentre, quoi.
Bien, on va faire comme ça alors. La semaine prochaine, donc, on se retrouvera pour parler du casting principal et des quatre personnages principaux. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour
merci
le
Clémence.
Premier épisode
merci.
De cette nouvelle collection. Wheel of Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur wheelofcinema.fr et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Seinfeld. D'ici là, portez-vous bien. We'll be right back.